de partager ce moment de communion, d'écoute aussi, parce qu'en parlant j'écoute, moi aussi je m'écoute. Le micro va fonctionner, je pense que vous m'entendez là. Oui, c'est bien de prier, de nous rappeler que nous avons besoin de l'aide du Seigneur à l'écoute de sa parole. Nous comptons sur cette aide. Voici donc le texte, la lecture que je veux faire pour ce matin. Elle se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. Et je lis de ce chapitre les versets 11 à 19. Bon, une histoire que vous connaissez déjà. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par le prêtre. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus face contre terre et le remercia. Or, cet homme, c'était un Samaritain. Jésus dit alors, « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris ? Où sont les 9 autres ? Il ne s'est trouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon cet étranger. » Puis Jésus lui dit, « Relève-toi, va. » « Ta foi t'a sauvé. » Voilà, jusqu'ici, cette lecture, ce récit bien connu. Alors nous sommes à un moment de l'histoire en Israël où les prêtres sont encore incontournables pour la vie sociale. Mais dans notre récit, ça n'empêche pas l'accès à la grâce divine. Est-ce qu'il y a dans l'esprit du rédacteur de l'Évangile, de Luc, est-ce que dans son esprit il n'y aurait pas l'idée d'un nouveau régime qui arrive, hein, je pourrais dire d'une nouvelle alliance, ou si vous voulez, un prochain retrait du canal historique? En tout cas, on peut s'étonner de la simplicité avec laquelle les choses se sont passées. Il a suffi aux 10 lépreux de demander. Alors bien sûr, ils ont dû crier. Mais c'était pour se faire entendre puisqu'ils se tenaient à distance. Jésus s'étonne aussi. Et je crois qu'il est bon que nous nous étonnions de ce même étonnement. Où sont-ils les 9 autres ? Est-ce qu'ils n'étaient pas un peu mal élevés ? Quoi qu'il en soit, ce récit a de quoi nous faire réfléchir sur notre rapport à Dieu. Mais avant tout, je voudrais faire quelques rappels, quelques précisions sur la lèpre à cette époque. À cette époque, il n'y avait pas tous les moyens médicaux que l'on connaît aujourd'hui. Alors, faute de diagnostic fiable, on assimilait à la lèpre les maladies de la peau qui pouvaient y ressembler. Et comme il fallait à tout prix éviter les contaminations, Eh bien, toute personne atteinte de lèpre ou d'une maladie assimilée, eh bien, elle était frappée d'isolement. Donc, malheur à quiconque était lépreux ou avait une affection de la peau qui ressemblait à la lèpre. Le livre du Lévitique donne des indications très précises et très sévères. Je cite simplement un verset du chapitre 13 où il est dit « Le lépreux ira la tête nue et il criera « Impur, impur !» de manière à ce que personne ne l'approche. C'est là qu'on comprend que les 10 lépreux, se sentant obligés de rester à distance, doivent crier pour se faire entendre. Cette impureté relevait donc de l'ordre de la maladie, mais elle revêtait aussi un aspect religieux, hein, puisque pour pouvoir rentrer à nouveau dans la communauté d'Israël, notamment dans le temple ou dans la synagogue, le lépreux qui était guéri devait passer devant le prêtre. Et justement, le livre du Lévitique contient tout un chapitre sur le rituel de purification, avec même un sacrifice destiné à réintroduire les lépreux qui étaient guéris. Alors, ce n'est pas le prêtre qui guérissait, hein, mais c'était pour constater et pour rétablir quelqu'un dans la société. Par ailleurs, ce n'est pas un hasard si notre récit emploie pour décrire la guérison le verbe « purifier », hein, au lieu de « guérir ». Il faut reconnaître un peu d'ambiguïté dans le sens du verbe « purifier ». À présent, encore quelques précisions sur l'étendue de la guérison pour un lépreux dans ce contexte. On peut bien en imaginer l'étendue. En plus de la santé retrouvée, il y a les liens sociaux et familiaux qui sont rétablis, la possibilité de travailler à nouveau, de gagner sa vie, sans parler bien sûr du retour à la vie religieuse, ce qui était à l'époque la garantie d'avoir une vie sociale, hein, puisque on n'était pas dans une société laïque. Donc la lèpre, c'était vraiment une plaie sanitaire et sociale, cette maladie que tout le monde pouvait redouter. Du coup, c'est là qu'on mesure toute l'étendue de la grâce qui est accordée à ces 10 lépreux. Car cette grâce s'applique à tous, à tous les 10. Tous les 10 sont guéris en chemin, même ceux qui vont se montrer ingrats. Aucune condition n'est requise. Leur nationalité, leur appartenance au peuple de Dieu n'est pas un critère. Il y a même parmi eux un Samaritain qui va recevoir le don de Dieu comme les autres. Autre aspect de cette grâce, ils ne font que demander. Et Jésus répond à leurs besoins sans tester leur foi pour savoir où ils en sont. Il les entraîne dans un acte de foi, un acte qui honore en les guérissant. Alors, comment les 10 lépreux ont-ils réagi à cette grâce? Facile à repérer, hein? Ça s'est passé, je dirais, en 2 étapes. La première étape, c'est l'étape de la confiance. Contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, il n'y a pas de prière spéciale, pas de parole particulière, pas de formule consacrée, pas de geste particulier. Jésus invite tout simplement les lépreux à aller faire constater leur purification chez les prêtres. Vous allez penser que peut-être ça semble très facile, mais je crois quand même qu'il s'agit d'une mise à l'épreuve, puisque les 10 lépreux doivent faire constater leur guérison sur la seule foi de la parole de Jésus, alors même qu'ils ne sont pas guéris. Ils y vont tous. Et il n'y en a pas un pour dire à Jésus, « Ouais, d'accord, on y va, mais d'abord, il faudrait quand même que tu nous guérisses. » Et le récit précise bien que ce n'est qu'une fois en route qu'ils sont guéris. Quand ils partent, ils sont encore malades. Le texte dit, « Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. » Il leur est fait selon leur foi. Aux 10. La deuxième étape, elle ne concerne qu'un seul d'entre eux, ce qui provoque la surprise de Jésus, une surprise même mêlée de déception. Malgré une telle guérison, malgré une telle réhabilitation sociale, eh bien, il n'y en a qu'un pour venir dire merci. Alors, il y a ici, je dirais, deux formes de foi. Les 9 qui obéissent aux paroles de Jésus, qui se soumettent aux prescriptions de la loi et qui reviennent dans les rangs. Point final. Jusqu'ici, donc, pas de problème. Mais ce que Jésus regrette, c'est qu'ils ne reviennent pas rendre gloire à Dieu comme l'a fait le 10e. Il ne s'en est trouvé qu'un. Que peut-on en retenir pour les 9 premiers? Eh bien, l'important, c'est de reprendre la vie où elle s'était arrêtée, en quelque sorte, au moment de leur maladie. Pour le 10e, de toute manière, le système de la loi reste incontournable. Il va devoir se présenter devant le prêtre. Mais ça peut attendre. Parce que pour lui, il y a quelque chose de plus important. Le donateur qui est plus grand que le don. Celui qui donne est plus important que ce qui est donné. Il fait demi-tour pour revenir vers Jésus afin de le remercier. Et en chemin, il glorifie Dieu à haute voix, c'est-à-dire qu'il raconte tout simplement ce qui lui est arrivé. Alors pour lui, son existence dépend non plus d'une loi pour vivre, mais de celui qui le rend à la vie. Les autres reviennent dans le système, ce qui n'est pas si mal, mais lui, tout en devant retrouver ce même système, a trouvé autre chose, la personne capable de le libérer. C'est la foi qui sauve. Va, ta foi t'a sauvé. La foi qui sauve, celle du Samaritain, ne consiste pas seulement à s'attacher seulement au bien que Dieu a donné, qui ne sont pas toujours durables d'ailleurs, mais à s'attacher en premier à celui qui a donné. La foi, selon l'Évangile, nous permet de demander à Dieu le secours nécessaire, de lui faire confiance, mais elle nous engage aussi à nous approcher de lui, à entretenir des rapports étroits avec celui en qui nous nous sommes confiés. Parce que nous ne sommes pas seulement des demandeurs qui téléphonent au SAMU en cas de besoin ou d'urgence, mais nous sommes mieux que ça. Jésus appelait ses disciples des amis, et mieux encore, nous sommes des enfants du Père Céleste. « Avant de conclure, je constaterai que dans notre récit, paradoxalement, la foi est proportionnelle aux difficultés que chacun connaît. Plus il y a des handicaps, plus la foi est manifestée. Curieux phénomène. On ne peut pas nier la confiance sans réserve des 10 lépreux. Lorsqu'ils suivent à la lettre et sans sourciller les indications de Jésus. Leur situation désespérée y est sans doute pour beaucoup. Mais pour le 10e, lui, il y a un handicap supplémentaire puisqu'il est samaritain. Il vient de l'autre côté de la frontière. Et en Galilée, les gens non seulement se méfient des lépreux, mais aussi des étrangers, et en particulier des Samaritains qui étaient considérés à l'époque comme des hérétiques. Eh bien, c'est lui qui a le moins de chance, c'est lui le plus conscient de la bonté du Seigneur. Lui qui, au départ, avait le plus d'obstacles à franchir. Alors, à quel personnage nous ressemblons le plus? Est-ce que nous ne sommes pas quelquefois trop habitués aux bienfaits que nous avons reçus? Est-ce que nous en restons conscients de ces grâces? Il y a parfois tout un tas de choses que Dieu nous a données et que nous n'avons même pas demandées. Et qui nous semble tellement naturel. Est-ce que les bienfaits dont il nous comble tous les jours nous émerveillent ou nous semblent être simplement des choses qui nous sont dues? Mais surtout, et c'est la question principale, est-ce que nous nous attachons plus aux bénédictions reçues ou à celui qui les donne? Nos délivrances, qu'elles soient miraculeuses ou pas, sont-elles plus importantes que celui qui délivre? Est-ce que notre foi ne fait de nous que des enfants demandeurs ou des fils ou des filles qui s'engagent dans leur relation avec leur Père Céleste? Enfin, le Samaritain, nous est-il dit, revint sur ses pas. Il arrête sa marche pour prendre du recul et pour considérer ce qui est le plus important. Sans doute dans des moments de joie ou dans la marche de notre vie, dans nos propres affaires, nos habitudes, s'arrêter pour revenir sur nos pas n'est pas forcément une démarche très naturelle. C'est pas si évident. Mais je crois justement que l'exemple du Samaritain vaut le coup d'être relevé. Alors, pourquoi la lecture de ce récit ne serait pas pour nous l'occasion de prendre le temps de revenir sur nos pas, autrement dit, de nous demander ce que Dieu est réellement pour nous. Eh bien, je nous laisse sur cette question. Je vous propose un instant dans le recueillement. Seigneur, c'est ta bonté que nous devons célébrer. que nous devons nous rappeler. Inscris ces choses dans nos cœurs, maintenant et pour les jours qui viennent, pour notre vie. Amen.